Donc nous avons été reçus ce matin à la demande de Monsieur de Normandie qui nous a envoyé une invitation jeudi dernier après-midi. Donc nous n'avions pas d'ordre du jour, donc on est venu au petit bonheur la chance. Donc on a parlé entre autres de la charte, mais pas que. Nous sommes des personnes qui avons travaillé sur la charte de logement, mais qui ne l'avons pas signée, parce que comme Emmaüs, nous estimons qu'elle ne contient que des éléments de loi, en fait, et on n'a pas à s'organiser pour que juste la loi soit organisée. Emmaüs et nous-mêmes, comme les autres associations, demandons depuis le départ, à savoir le drame de la rue d'Aubagne le 5 novembre dernier, qu'il y ait un état de sinistre exceptionnel qui soit décrété, puisqu'il n'y a aucune assurance qui prend en charge, qui ouvre un sinistre ou qui aide toutes les personnes, peu importe leur statut, qu'elles soient commerçantes, propriétaires occupantes ou locataires occupantes. Les assurances ne sont pas mises à contribution et elles ne donnent aucun soutien financier aux personnes qui sont concernées, et à savoir que c'est aujourd'hui plus de 3000 foyers et non pas de 3000 personnes. C'est important à distinguer, rue d'Aubagne et hors rue d'Aubagne, bien entendu. Nous demandons aussi que ce qu'ils appellent, eux, les ressources humaines, nous, c'est des moyens financiers humains qui soient renforcés et compétents pour prendre en charge la crise, tant sur le péril avéré ou suspicieux, que sur l'insalubrité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux personnes qui gèrent le service insalubrité. On ne peut pas demander à deux personnes, avec une embauche prévue cet été de deux autres personnes, donc à terme quatre personnes, de gérer ce qui n'a pas été fait depuis 50 ans. Et avec 331 immeubles évacués, dans le cadre du PPA, ils annoncent encore 6000 personnes qui vont être évacuées. Enfin, quatre personnes ne pourront pas gérer ça, ce n'est pas possible. Pour vérifier l'insalubrité ou la salubrité des logements. Donc accompagner les gens avant, après, faire les travaux quand il faut. À savoir que la plupart des signalements passe par la CAF lorsqu'il y a l'APL, parce que c'est la CAF. Sauf que, comme le disait Anne-Claire Lebel ce matin, qui est directrice des compagnons bâtisseurs, parce qu'elle est elle aussi opérateur de la CAF, la réalité c'est qu'entre le moment où un locataire signale l'insalubrité à la CAF et le moment où celui-ci envoie un expert, il y a souvent 8 mois qui s'écoulent pour le premier rendez-vous. C'est des procédures qui sont extrêmement lourdes et qu'il faut alléger pour mettre en sécurité la population. Parce que l'insalubrité, c'est aussi la santé publique. J'ai bon nombre de familles, en particulier des enfants et des personnes âgées, qui me disent que depuis qu'elles sont dans des logements provisoires, que ce soit hôtel ou appartement, elles n'ont plus de problèmes respiratoires. Parce qu'il n'y a plus de champignons, il n'y a plus d'humidité, etc. Donc l'insalubrité est un problème de santé publique. C'est pour ça que l'ARS doit aussi mettre la main à la poche, et en termes d'argent et en termes de moyens humains, pour gérer cette question, quoi. On voit qu'il y a une non-volonté, enfin je veux dire... Il n'y a pas une volonté de sortir de cette crise. En fait, je vous donne un exemple, encore une fois, qui n'a rien à voir pour mesurer la gravité de la situation. À la rue du Bénoir, dans le centre-ville, il y a des immeubles qui sont fermés depuis plus de 3 ans, avec un gros périmètre de sécurité, exactement le même qu'il y a à la rue de la Butte, qui vient d'être évacué devant la place Jules Guesde. Et on n'a aucune visibilité sur est-ce que ces immeubles vont être détruits, est-ce qu'ils vont être réhabilités, réaménagés. On ne sait pas ce qui se passe et les riverains ont peur. La route est coupée. Donc, je veux dire, toutes ces évacuations, qu'elles aient eu lieu avant ou après le 5 novembre, et malheureusement, c'est 8 morts. Aujourd'hui, la ville ne sort ni arrêter, à part pour la rue de la Palue, on peut se poser des questions pourquoi ça a été fait aussi vite, mais ni arrêter de démolition, ni de réhabilitation. On ne sait pas ce qui se passe, quoi. Il y a une opacité absolue des services de la ville, du maire de la ville et de la métropole qui récupère une partie de la compétence sur la gestion de l'insalubrité. Et du coup, ça n'aide pas à rassurer les gens et être rassurés nous-mêmes. Et nous demandons surtout le déblocage de fonds financiers à la hauteur de la gestion de cette crise, de la réhabilitation de Marseille et de la rénovation, et aussi de la construction de logements. Social, mais vraiment social, pas dit social avec des loyers exorbitants, dans le centre-ville de Marseille, bien entendu, mais dans toute la ville, puisque le parc immobilier dit social n'est concentré que dans le nord de la ville et qu'il est dans un état minable et qu'il est pas exploitable aujourd'hui.
Cette militante rapporte les réponses du ministre et surtout sur les assurances.
Alors, il nous répond qu'il était engagé dans un bras de fer avec les assurances, mais que celles-ci menacent de ne plus assurer Marseille, ce qui est absolument intolérable. Voilà, c'est intolérable. Elles ont essayé au début, après elles ont essayé. Ben, la dame qui est ici, Anaïs, qui est aussi une délogée, a reçu une lettre de son assureur qui menaçait elle aussi de ne plus l'assurer, puisqu'elle est propriétaire occupante et que les clauses des évacuations, puisque son immeuble n'était pas concerné, c'était l'immeuble d'à côté, ne rentraient pas dans les clauses générales du contrat qu'elle avait signé. Donc Monsieur le ministre nous dit que à force de trop tirer sur la corde avec la Fédération nationale des assurances qu'il re-rencontre demain matin, a priori, celle-ci menacerait de ne plus assurer Marseille, ce qui est intolérable. Concernant la mise en place du PPA et de tout le suivi, l'insalubrité, donc on a parlé aussi de l'encadrement des loyers, du droit au retour, du permis de louer. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été votée il y a 8 mois, qu'elle a été mise en place, donc c'est l'encadrement des loyers, par exemple, qui permettrait que les personnes précaires ou vulnérables puissent se reloger dans le centre-ville. Il y a un accord qui a été signé avec la mairie de Paris le 1er juillet, sauf que, comme il l'a rappelé, je fais référence à un ancien combat sur les écoles que j'ai mené sur le décret des TAP, l'État ne peut pas obliger une municipalité ou une collectivité à mettre en place une loi ou un décret de loi. C'est à la bonne volonté de la municipalité ou de la métropole, qui sont les deux responsables aujourd'hui de la gestion de l'insalubrité et de tout ce qui est indignité. Et aujourd'hui, a priori, je cite, c'est un enjeu électoral. Et Martine Vassal n'étant pas autour de la table lors des 8 mois de négociations que nous avons passées, elle n'est pas signataire de la charte non plus et n'a montré aucun signe, en tout cas ni de la métropole ni du département, de s'engager dans la lutte contre l'insalubrité et dans la mise en sécurité des personnes dont elle a la charge, à savoir les personnes âgées, les enfants, au-delà de sa compétence sur l'insalubrité. Aujourd'hui, on nous dit clairement que, période préélectorale oblige, on ne peut forcer personne à rien.
217 millions d'euros déjà annoncés, un plan partenarial d'aménagement, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui va dans le bon sens ?
Nous ne pouvons pas nier que le ministre et les services de l'État affichent une réelle volonté de travailler dans le bon sens et de soutenir les personnes qui sont victimes de logements indignes, insalubres, de lutter contre les marchands de sommeil, etc. Sauf que la réalité, c'est que c'est un travail en commun qui inclut la mairie de Marseille, la métropole et l'État, et que donc, en moyenne, tout le monde avait promis à peu près à la fourchette 200 millions d'euros, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu un centime à 8 mois de la crise et qu'on fait des réunions qui sont ce qu'elles sont, hein, il faut les faire, etc. Sauf que les personnes sont toujours parquées dans les hôtels, sont toujours sans visibilité sur leur avenir. On a des enfants qui ont passé un an dans des chambres d'hôtel. Moi, j'ai 9 familles dont la dame a accouché dans un hôtel. Ils n'ont aucune visibilité sur où ils vont inscrire leurs enfants à la rentrée scolaire parce que, quand les gens ont été déplacés à plusieurs reprises, 9, 10 hôtels pour certaines familles. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec la fac de géographie, les étudiants, les données du collectif du 5 novembre et les nôtres, à établir une cartographie qui nous permet de voir et de constater la trajectoire des habitants qui ont été évacués du point de départ avec les différents hôtels, voire logements provisoires qu'ils ont fait, et avant une réintégration, quand il y a eu réintégration, dans le logement d'origine qui malheureusement est devenu souvent un logement insalubre, puisque les rats se sont invités, les fissures, le froid, la moisissure, etc., quand le logement a été fermé pendant des mois. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logement définitif et que les chiffres qui sont évoqués pour les personnes qui seraient en hôtel sont de 417 à 499 familles. Sauf que dans la réalité, c'est que, y compris dans le flot des 3000 délogés de la première heure, la majorité des personnes qui sont aujourd'hui logées sont logées dans des logements provisoire, en suroccupation souvent, c'est-à-dire que moi j'ai des familles, que je suis à Marseille en colère, où ils sont 4, 5, 6, voire plus, dans des T3, et ils préfèrent être entassés dans des T3 et avoir la possibilité de se doucher, de vivre en famille, de cuisiner, que de rester dans des hôtels et d'être ballottés d'hôtel en hôtel, souvent, il y a des familles qui sont restées à 10 fois, quoi. Et on voit que c'est dramatique, et qu'aujourd'hui, j'ai encore des familles à Marseille en colère pour lesquelles, malheureusement, il y a des problèmes de santé importants physiquement. Je veux dire, on n'est plus à la santé mentale, la fragilité, où elles ont subi des interventions chirurgicales lourdes et ces interventions qui ont été suscitées directement par le choc des évacuations, le mépris, la non-prise en considération, le non-défraiement à la hauteur des commerçants qui forcément ont une conséquence sur la vie personnelle, des propriétaires occupants, des personnes comme cette dame, des personnes âgées, des enfants qui ont un réel traumatisme et au-delà pour certaines des problèmes de santé physique. Et c'est bien beau, j'en parle, c'est magnifique, sauf que ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, les problèmes sont suspendus dans des logements provisoires. Il n'y a rien de définitif.
Pour finir, elle appelle au droit d'un logement et d'un local de travail digne.
Moi, ce qui me fait halluciner depuis la première réunion que nous avons eue chez M. Ruas, donc le 14 novembre dernier et le 21, si mes souvenirs sont bons, novembre avec M. le Premier ministre, c'est que tout le monde s'accorde à dire que ce qui se passe à Marseille est une crise unique à Marseille et unique sur le territoire français, mais que personne ne pose vraiment les moyens humains et limite tape du poing sur la table pour créer une espèce de jurisprudence pour que plus jamais ça, bien entendu, et pour qu'on puisse mettre en sécurité toutes ces personnes et leurs enfants. Sécurité physique, sécurité morale, et à un moment donné, vivre dans un endroit, dans une maison, dans une habitation ou travailler dans un local qui est en sécurité, c'est pas une faveur, c'est un droit fondamental qui n'est pas respecté.